Amer Fantôme. Grammaire Fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Dans le cadre de cette deuxième émission autour de l'artiste Pierrette Bloch, nous recevons aujourd'hui le mathématicien Thomas Hausberger. Avec Thomas, nous sommes allés ensemble au musée Fabre. Nous avons regardé la pièce « Ligne de point » de Pierrette Bloch, œuvre dont nous avons parlé auparavant la semaine dernière avec la conservatrice de collection contemporaine du musée Fabre, Maud Maron-Wojewodzki. Il nous est apparu qu'il serait pertinent de faire quelques analogies entre la manière de travailler de Pierrette Bloch, qui s'est définie par l'extrême simplicité des moyens, c'est une œuvre en noir et blanc, qui se constitue entièrement des points et des lignes, et le travail du mathématicien Alexandre Grothendieck. Bonjour Thomas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Tu es mathématicien et tu travailles à l'Université de Montpellier, à l'Institut Alexandre Grothendieck. Avant de réfléchir ensemble à quelques parallèles qu'on peut faire entre la recherche de l'artiste Pierrette Bloch et les recherches du mathématicien Alexandre Grothendieck, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours et de tes domaines de recherche?
Bonjour Nadia. Merci pour cette invitation à croiser les regards entre art et science autour des œuvres de Pierrette Bloch. Je suis en effet mathématicien à l'IMAG, l'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck. Mais avec un parcours un peu particulier qui m'a dirigé vers les sciences humaines. Après ma thèse soutenue en 2001, j'ai poursuivi pendant une dizaine d'années des recherches en mathématiques pures dans le domaine de la géométrie arithmétique, et dans la lignée des travaux d'Alexander Grothendieck dont il sera question. J'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'a transmis ce domaine de recherche très prestigieux qui a octroyé à la France plusieurs médailles Fields, celles de Laurent Laforgue ou de Ngo Bao Cho par exemple, et qui fascine les mathématiciens par son pouvoir unificateur des différentes branches des mathématiques, l'algèbre, la géométrie, la topologie, l'analyse. Malgré la beauté de ces mathématiques, j'ai ressenti le besoin de, je dirais, retrouver l'homme derrière la formule et de développer une pensée sur les mathématiques. Je me suis ainsi orienté vers la philosophie des mathématiques. Puis j'en suis venu à soutenir une habilitation à diriger des recherches en 2016 en didactique des mathématiques, où j'étudie maintenant les phénomènes liés à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques au niveau de l'université, par exemple le cas de l'algèbre abstraite. C'est l'occasion de combiner histoire, philosophie des mathématiques, didactique, psychologie cognitive, et même de collaborer avec des artistes, donc de s'engager dans des recherches interdisciplinaires qui m'enrichissent beaucoup.
Merci Thomas pour cette présentation. Il me semble que cette description de ton parcours éclaire bien comment tu abordes les mathématiques. Tu étudies donc aujourd'hui les phénomènes liés à l'apprentissage de mathématiques, comment on peut s'imaginer les mathématiques, et ceci à partir d'une approche interdisciplinaire, en t'inspirant, en combinant à la fois l'intérêt que tu as pour l'histoire, pour la philosophie, et pour la psychologie et les arts. Comme tu viens de le dire, tu as travaillé et tu travailles toujours avec la pensée de Grothendieck. En tant qu'artiste, lorsque j'ai rencontré pour la première fois les dessins d'enfants de Grothendieck, il me semble que c'était à l'époque où tu as fait une conférence à la Panacée en 2014. Alors lorsque j'ai vu ces dessins, des bonhommes faits à partir des lignes et des points, j'étais très étonnée d'apprendre que c'était ceux d'un mathématicien. Peux-tu nous parler un peu plus de la vie d'Alexandre Grothendieck, nous décrire davantage ses dessins d'enfants, puis nous parler en quoi tu penses peut-on faire des rapprochements entre le travail de recherche en mathématiques et la recherche artistique plastique de Pierre Bloch.
Alexander Grothendieck est un mathématicien français qui est né en 1928 et décédé en 2014. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle et était connu pour son intuition extraordinaire. Son enfance était assez tragique. Son père est mort à Auschwitz et il a trouvé refuge avec sa mère dans le sud de la France. Il a fait ses études à Montpellier, puis a eu une carrière hors norme à Paris. Il a obtenu la médaille Fields, qu'il a finalement refusée, et s'est engagé dans des combats pour défendre une certaine éthique de la science et l'écologie. Il a terminé sa carrière en tant que professeur à l'Université de Montpellier. En ce qui concerne ses contributions mathématiques, il a notamment refondé un domaine des mathématiques, la géométrie algébrique, autour de nouvelles notions comme celle de topos, de schéma, plat, étal, de revêtement, tout un vocabulaire qui évoque des contenus intuitifs, de sorte que le choix terminologique est très important pour un mathématicien comme Grothendieck ou pour le groupe Bourbaki plus généralement auquel il a appartenu. Tu évoques, Nadia, les dessins d'enfants de Grothendieck. Ces derniers ont été introduits par Grothendieck pour classifier ce qu'on appelle les revêtements étals de la droite projective privée de trois points dans ses travaux de géométrie arithmétique. Ces dessins sont des graphes, donc un ensemble fini de points, les sommets, reliés par des traits, les arêtes, avec des structures additionnelles, deux couleurs pour les sommets qui se succèdent et un ordre sur les arêtes. Certains dessins d'enfants ressemblent à des personnages, ce qui amuse beaucoup les mathématiciens. Ce sont des objets combinatoires qui servent de support à certains raisonnements. Le mathématicien, comme tout être humain, a besoin de représentations pour raisonner dans l'abstrait, et il se trouve que parfois, ces concepts se trouvent incarnés par des bonhommes. En fait, Grothendieck évoque souvent l'enfant dans son écrit sur la création mathématique et le milieu mathématique. C'est l'ouvrage « Récolte et semaille » paru récemment en 2021 chez Gallimard. Auparavant, le manuscrit circulait sur les réseaux. C'est un ouvrage qui personnellement m'intéresse beaucoup pour ce qui concerne la philosophie des mathématiques et la psychologie de l'invention en mathématiques. Peu de mathématiciens osent s'exprimer sur le sujet. On les comprend, cela relève de l'intime. Grothendieck oppose l'enfant et le patron. Mais c'est davantage une dualité qu'une opposition. Le patron est celui qui planifie, qui ordonne ses idées. C'est le mathématicien dans ses raisonnements logiques. Tandis que l'enfant est celui qui a conservé une capacité d'émerveillement, celui qui joue, qui est capable de découvrir la nouveauté par son aptitude à rencontrer un ailleurs. Les dessins d'enfants de Grothendieck me font penser d'une certaine manière aux dessins de mime de Pierrette Bloch. Le mime a eu une forte impression chez Pierrette Bloch, et il en est de même pour la découverte de la structure des dessins d'enfants chez Grothendieck, comme il explique lui-même. Je le cite. « Je ne crois pas qu'un fait mathématique m'ait jamais autant frappé que celui-là et ait eu un impact psychologique comparable. Cela tient sûrement à la nature tellement familière, non technique, des objets considérés, dont tout dessin d'enfant griffonné sur un bout de papier donne un exemple parfaitement explicite. Un tel dessin se trouve associé à des invariants arithmétiques subtils qui seront chamboulés complètement dès qu'on y rajoute un trait de plus. » Il rajoute ensuite dans son ouvrage un commentaire sur une autre expérience de ce type qui vient également éclairer le cas des défunts d'enfants. Je puis faire exception pourtant d'un autre fait, du temps où, vers l'âge de 12 ans, j'étais interné au camp de concentration de Rieux-Croix près de Mende. C'est là que j'ai appris par une détenue, Maria, qui me donnait des leçons particulières bénévoles, la définition du cercle. Celle-ci m'avait impressionné par sa simplicité et son évidence, alors que la propriété de rotondité parfaite du cercle m'apparaissait auparavant comme une réalité mystérieuse, au-delà des mots. C'est à ce moment, je crois, que j'ai entrevu pour la première fois, sans bien sûr me le formuler en ces termes, la puissance créatrice d'une bonne définition mathématique, d'une formulation qui décrit l'essence. Aujourd'hui encore, il semble que la fascination qu'a exercée sur moi cette puissance-là n'a rien perdu de sa force.
Tu as parlé à l'instant de la psychologie de l'invention chez Grothendieck, de comment les idées lui adviennent. Et tu as souligné aussi, Thomas, qu'il ose en parler, un sujet qui est délicat et intime et dont peu de mathématiciens parlent. Grothendieck différencie en lui deux aspects de sa personnalité, une qu'il appelle « enfant », c'est la partie qui est à l'origine, à la genèse des idées, du travail créatif, c'est lui qui a conservé la capacité de s'émerveiller, de jouer, d'être capable de découvrir la nouveauté, de s'ouvrir à l'autre, à un ailleurs. Et puis le patron, c'est la partie de la personnalité qui planifie, qui ordonne et qui a un raisonnement logique et qui appartient au monde du langage. Quant au dessin d'enfant de Grothendieck, tu le rapproches des dessins des mimes de Pierrette Bloch, qui, dans les années 50, va s'intéresser à la gestualité du corps et qu'elle observe lors des cours de mime auxquels participe son ami Alvin Epstein. Ces dessins sont constitués de lignes très dynamiques faites d'un seul geste, quasi abstraites, dans lesquelles elle croque le mouvement. Puis, Thomas, tu cites Grothendieck lorsqu'il décrit un moment qui lui semble fondateur dans son développement de sa conscience, le moment où pour lui, pour la première fois, il a eu l'intuition qu'à partir d'une définition, cette définition du cercle que son amie Maria lui apprend, qu'à partir de cette définition apparaît une image mentale, une image juste. Je voudrais revenir à ce phénomène de l'advenir d'une image mentale qui véhicule une sensation de justesse et que les artistes connaissent aussi. Cette sensation qu'une forme produite match correspond à une idée qu'on ne peut pas nommer, mais qui est dans l'air et qu'on poursuit parce qu'on est convaincu de son importance et qui se précise geste après geste. Toute l'œuvre de Pierrette Bloch me semble émaillée de cette certitude artistique qui intimement la guide et qui fait par ailleurs qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de retours, qu'elle ne cherche pas l'accord d'un quelconque public, même si ça lui fait plaisir, bien sûr. Mais en gros, elle est toujours occupée, toujours en train déjà de faire la prochaine série, de suivre la prochaine intuition. Ou pour parler avec les mots de Grothendieck, on voit chez Pierrette Bloch l'enfant à l'œuvre qui joue, qui passe de découverte à découverte et qui, par ce fait, nous fait découvrir des idées, nous inspire, fait advenir des concepts en forme d'image, pour qu'il n'y a pas de mots, mais que nous reconnaissons par l'énergie qu'il nous procure, par la joie qu'il nous donne. Donc Pierrette Bloch crée des formes qui ont une résistance, une justesse dont se détachent des images mentales. En tous les cas, c'est pour le cas pour moi en tant que spectatrice. Donc de cette œuvre minimaliste, graphique, pauvre, entre guillemets, abstraite de Pierrette Bloch, se dégage une puissante charge imaginaire. Parce que son œuvre ne se laisse pas découder, se laisse enfermer dans le langage. Et comme elle dit elle-même, concernant le processus de création de ces lignes d'écrin, je croyais trouver un fil et j'ai trouvé des mémoires. Thomas, peux-tu nous dire un peu plus comment Grothendieck relie l'imaginaire mathématique, les images mentales aux formes artistiques?
La citation de Pierrette Bloch que tu me proposes, Nadia, m'évoque d'autres mots de Grothendieck. Lorsqu'il tente d'expliciter comment immergent les structures mathématiques de l'esprit du mathématicien à partir de premières idées encore informes. C'est le fruit d'un travail de mise en forme, mais sa source se trouve ailleurs, d'où un aller-retour entre des images mentales qui proviennent de la source de son être et une formulation dans le langage mathématique usuel pour les affiner et les communiquer. Je le cite. C'est dans cet effort continuel de formuler l'informulé, de préciser ce qui encore est vague, que se trouve peut-être la dynamique particulière au travail mathématique et peut-être aussi à tout travail intellectuel créateur. Dans une dialectique continuelle entre l'image plus ou moins informe et le langage qui lui donne une forme et chemin faisant suscite de nouvelles images plus ou moins floues qui approfondissent la précédente et qui, elles aussi, appellent une formulation pour leur donner forme à leur tour. En mathématiques, on a tendance à mettre l'accent sur l'enchaînement logique. C'est ce qui apparaît dans les manuels d'école et dans les articles qu'écrivent les mathématiciens. Mais ce n'est que le côté émergé de l'iceberg, la face yang des mathématiques, dirait Grothendieck. Il y a une face yin secrète qui renvoie à l'expérience intime et personnelle des choses mathématiques, comme il y a une intériorité de la pratique artistique. Grothendieck nous dit « Mais si l'effort ici semble toujours se porter du côté du langage, donc du côté formulation, structure, logique, qui forment les ingrédients clés de la méthode mathématique, toute ma vie, j'ai été incapable de lire un texte mathématique, si anodin ou simpliste soit-il, lorsque je n'arrive pas à donner à ce texte un sens en termes de mon expérience des choses mathématiques. C'est-à-dire lorsque ce texte ne suscite pas en moi des images mentales, des intuitions qui lui donneraient la vie, comme une chair vivante de muscles et d'organes donne vie à un corps qui, sans elle, se réduirait à un squelette.
Tu parles ici de la mise en forme des idées qui, pour Grothendieck, est un va-et-vient entre l'image, plus ou moins informe, inexprimable par les mots, ce qu'il appelle le yin, et les langages qui lui donnent une forme, ce qu'il appelle le yang, et qu'on voit davantage, mais qui ne peut exister sans sa face cachée. Grothendieck nous parle ici d'une intériorité qu'on connaît de la pratique artistique, et qui existe donc aussi pour les mathématiciens, sauf qu'ils n'en parlent pas. Pierrette Bloch, elle aussi, n'en parle pas. Elle ne veut rien raconter, elle ne veut pas faire récit, et peut-être elle a l'intuition que lorsque on nomme, on enferme aussi, et quelque chose peut alors s'arrêter de grandir, et c'est fini, il faut passer alors à autre chose. Pour Pierrette Bloch, il semble y avoir la nécessité de ne pas faire récit, mais juste d'indiquer, de montrer, de garder le secret pour continuer à rester libre. D'ailleurs, à propos de la liberté, elle dit « La promenade est une circonstance que je préfère. C'est une aventure et un jeu. C'est être libre. Les routes, les sentiers, les villages, les rues, tout amène à choisir, à comparer, à prendre plaisir, à se souvenir. La promenade n'a comme limite que la fatigue ou l'heure. » Thomas, comment Grothendieck parle de ce phénomène qu'avec le récit, il peut se produire un arrêt, que la fiction langagière peut aussi nous enfermer dans une pensée et qui peut-être l'amène d'ailleurs pour cette raison de dessiner aussi.
En effet, Grothendieck pointe également une sorte de piège de la rationalité lorsque le mathématicien se confine dans le rôle du patron. Or, un travail proprement créateur est l'apanage de l'enfant, pas du patron. De l'enfant qui sait encore écouter ce qu'il appelle la langue mère, qui procède par image, celle des rêves. En d'autres termes, il souligne la fonction de l'inconscient dans les productions véritablement créatives et dont la justesse s'éprouve par une sorte d'adéquation entre ce qui est produit et cette source inconsciente qui se manifeste par des voix et des images internes. Si l'on est mystique, comme Grothendieck, le principe créateur sous-jacent se retrouve projeté sur un personnage qu'il appelle tout à la fois l'autre, avec un A majuscule, le joueur, le rêveur, le metteur en scène, le prestidigitateur ou le créateur. On est dans la psychanalyse de l'invention que Grothendieck décrit de façon poétique. Si je reprends ces mots qui font écho au positionnement de Pierrette Bloch contre une réduction de son œuvre à un langage, je le cite. Hier, j'ai examiné le piège des mots. Un piège, comme bien souvent, où ne tombe que celui qui veut bien y tomber. Comme tout outil, le langage a une fonction, une raison d'être. C'est celle d'exprimer un sens. C'est la raison d'être aussi de l'abstraction, ce fil du tranchant d'un instrument de grande précision. Plus nous nous élevons dans les étages du langage, plus aussi nous nous éloignons de ce qu'on pourrait appeler l'expérience brute, celle que nous apportent nos sens et qui se manifeste par nos émotions. Il manque une profondeur. Il est un autre langage, encore, qu'un tel langage de concepts ou de mots, un langage de nature entièrement différente. Cette langue joue le rôle d'une sorte de langue archétype, qu'on pourrait appeler la langue des images. C'est la langue avant tout du rêve ou de l'imagination, quand celle-ci se déploie sans aucun contrôle provenant du conscient. Il faut ajouter que c'est en même temps aussi la langue la plus intimement personnelle. Chaque signe-image, remontant des couches profondes de notre être, est messager de celui que nous sommes. Comment nous appréhendons, à notre insu souvent, le monde qui nous entoure, et comment se jouent en notre être les conflits immémoriaux autour desquels se noue la condition humaine. Il me semble qu'on retrouve ici un écho à la précédente citation de Pierrette Bloch. « Je croyais trouver du fil, j'ai trouvé des mémoires. » Ainsi qu'une interprétation de ta notion, Nadia, de grammaire fantôme. Grothendieck souligne d'ailleurs que c'est du côté des arts que l'on trouve une expression des plus fidèles de cette langue archétype ou langue image. Je le cite à nouveau. La langue image reste ainsi à tout moment en contact immédiat avec la perception des sens, avec le corps, et aussi avec l'émotion, fille du corps et des sens, fidèle messagère de ce qui est perçu. Perception, émotion et expression d'un sens ou d'une pensée sont ici une seule et même chose. Nous pouvons bien sûr la traduire dans le langage des mots. C'est bien ce que je ne manque pas de faire avec un soin infini. Chaque fois, ou presque, qu'un rêve m'interpelle avec une force exceptionnelle. Mais il est sûr aussi que la langue image n'est pas faite pour être traduite en mots. Si j'essaye d'évoquer quelques moyens de communication directs par la langue image, ou par quelque autre langue qui s'en rapproche tant soit peu, je ne vois guère, faute d'imagination sans doute, que la peinture ou la sculpture, et surtout la danse, la langue mouvement par excellence, la langue du corps. Il me semble qu'on rejoint ici les activités qui captent l'attention de Pierrette Bloch. Pour finir, j'aimerais reprendre l'idée de liberté que tu évoques, Nadia, dans ta dernière citation de Pierrette Bloch, et qui trouve également écho chez Grothendieck, lorsqu'il affirme, je le cite, « Ce qui sans doute déconcerte le plus dans la langue parabole, la langue image, c'est la liberté. Aucun rêve ne laisse présager le suivant. Et à chaque fois, pourtant, nous percevons obscurément un ordre invisible, un propos, un sens d'une parabole où nous sommes acteurs dociles et pâteaux, sans même songer à un sens que nous serions en train de jouer. Ainsi, finalement, la promenade à laquelle nous invite Pierrette Bloch, ou celle de Grothendieck, à l'écoute de la voix et des images des choses mathématiques, n'est pas une errance, mais une forme de transcendance, la rencontre secrète d'un autre qui, pour Grothendieck, je le cite une dernière fois, est la voix de ce qui est en nous et qui semble sans voix. Sa raison d'être, semblerait-il, n'est pas d'être entendu, mais d'être.
Merci Thomas pour nous avoir mis en exergue ce que le mathématicien Alexandre Grothendieck dit du travail de création et ce qui est propre autant à l'univers artistique comme celui de Pierrette Bloch que celui des mathématiciens. Pour Grothendieck, il y a donc une longue image, ce qu'il appelle la longue mère, la longue parabole, la voix sans voix en nous, et de laquelle puisent autant les mathématiciens que les artistes. Après ce détour par les méandres des mathématiques, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec Georgia Rinne-Worms dans son exposition « Nos corps anarchiques » qui a lieu à présent à l'espace d'exposition des Mécènes du Sud, rue de Balance, à Montpellier. Au revoir.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.